Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
Bonjour à tous. Est-ce l'histoire qui impose son rythme ou est-ce la musique qui donne le tempo de l'histoire? Aujourd'hui, nous allons évoquer la Révolution française de 1848, parfois dénommée Révolution de février. Le portrait sera consacré à Alphonse de Lamartine. Et puis nous terminerons par 1947, l'année 1947, une année clé pour l'Inde. La Révolution française de 1848, parfois dénommée Révolution de février, est la troisième Révolution française après la Révolution française de 1789 et celle de 1830. Elle se déroule à Paris du 22 au 25 février 1848. Sous l'impulsion des libéraux et des républicains, une partie du peuple de Paris se soulève à nouveau et parvient à prendre le contrôle de la capitale. Le roi Louis-Philippe est contraint d'abdiquer en faveur de son petit-fils, Philippe d'Orléans, le 24 février 1848. Le même jour, à 15h, la Deuxième République est proclamée par Alphonse de Lamartine, entouré des révolutionnaires parisiens. Vers 18h, un gouvernement provisoire est mis en place, mettant ainsi fin à la monarchie de juillet. Cette révolution sera suivie des journées de juin, réprimées dans le sang, 5700 morts. Karl Marx analyse les événements dans les luttes de classe en France. Le 25 février vers midi, la République n'était pas encore proclamée, mais par contre, tous les ministères étaient déjà répartis entre les éléments bourgeois du gouvernement provisoire et entre les généraux, banquiers et avocats du national. Mais cette fois, les ouvriers étaient résolus à ne plus tolérer un escamotage semblable à celui de juillet 1830. Ils étaient prêts à engager à nouveau le combat et à imposer la République par la force des armes. C'est avec cette mission que Raspail se rendit à l'Hôtel de Ville. Au nom du prolétariat parisien, il ordonna au gouvernement provisoire de proclamer la République, déclarant que si cet ordre du peuple n'était pas exécuté dans les 2 heures, il reviendrait à la tête de 200 000 hommes. Les cadavres des combattants étaient encore à peine refroidis. Les barricades n'étaient pas enlevées, les ouvriers n'étaient pas désarmés et la seule force qu'on put leur opposer était la garde nationale. Dans ces circonstances, les considérations politiques et les scrupules juridiques du gouvernement provisoire s'évanouirent brusquement. Le délai de 2 heures n'était pas encore écoulé que déjà sur tous les murs de Paris s'étalait en caractères gigantesques « République française, liberté, égalité, fraternité ».
1848, c'est pas tout à fait une date, c'est un millésime. Il ne concerne pas que la France, il concerne toute l'Europe et il ouvre, dans le passé, une brèche où rejoue, évidemment, l'espérance révolutionnaire. Et si on veut commencer cette histoire par un récit parisien, nous dirions qu'en février 1848, l'histoire commence par un banquet qui n'a pas lieu. Nous sommes sous le règne du roi Louis-Philippe, alors âgé de 75 ans, que les caricaturistes représentent sous les traits peu flatteurs d'une poire flétrie. Son gouvernement, présidé par François Guizot, est celui de la monarchie de Juillet. Ce régime doit son nom à la révolution des Trois Glorieuses, les 27, 28, 29 juillet 1830, qui l'amenèrent au pouvoir. C'est une monarchie constitutionnelle, inspirée du modèle anglais, que l'on appelle censitaire, c'est-à-dire qui réserve le droit de vote aux plus riches, à ceux qui peuvent payer le plus d'impôts. Les réunions publiques sont théoriquement prohibées. Mais pour contourner cette interdiction, depuis les années 1840, les républicains socialistes et libéraux instaurent la tradition du banquet pour y discourir de l'élargissement du droit de vote et porter des toasts à une république à venir. Alors on a beaucoup moqué cette forme de mobilisation politique qu'est le banquet. Ce sont des agapes très arrosées où se donne à entendre une éloquence un peu ampoulée. C'est une forme un peu surannée de mobilisation politique. Et pourtant, on peut dire que la monarchie de Juillet, c'est le temps des banquets. Entre 1847 et 1848 est organisée une campagne d'environ 70 banquets devant culminer le 21 février, place de la Concorde, à Paris. Mais cette fois-ci, le banquet est interdit. Alors, la foule afflue vers la Concorde, où aurait dû se tenir le banquet, réclame, au fond, ce droit de se réunir et de parler politique. Et là, devant la pression populaire, très vite, le gouvernement cède. Le gouvernement de François Guizot, et c'est François Guizot lui-même, qui était le grand ministre de la monarchie de Juillet, qui démissionne. Cette victoire du camp réformiste soulève une grande joie à Paris. Le 23 février, la foule se dirige vers le boulevard des Capucines, au ministère des Affaires étrangères, pour y allumer des lampions. Boulevard des Capucines, il se passe quelque chose que les historiens, au fond, peinent à caractériser. Est-ce que c'est une provocation policière? Est-ce que c'est simplement un accident? En tout cas, une détonation éclate, une fusillade s'engage, il y a 10 morts. 10 morts sur le pavé parisien. Et là commence véritablement l'insurrection. Très vite, la situation échappe au gouvernement et la garde nationale, qui était la milice en armes du régime, mais également un lieu de sociabilité et de politisation, fait volte-face. Et à partir du moment où la garde nationale se retourne contre le régime de la monarchie de Juillet et prend fait et cause pour les émeutiers, ben c'est fini. Le jeudi 24 février, à 13h, le roi abdique. Il abdique en faveur de son petit-fils parce qu'il croit encore pouvoir sauver le régime. Mais tout va très vite, tout s'emballe. Le peuple envahit les Tuileries et au soir, dès le soir du jeudi 24, la République est proclamée.
En février 1848, Franz Liszt s'installe à Weimar où il prend sa charge de maître de chapelle nommé par le grand-duc. Le 16 février, Frédéric Chopin donne son dernier concert à Pleyel. La marche de Radetzky est composée par Johann Strauss, père.
Thank you.
Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine, né le 21 octobre 1790 à Mâcon et mort le 28 février 1869 à Paris, est un poète, romancier, dramaturge, historien et homme politique français. Il est l'une des grandes figures du romantisme en France. Il participe également à la Révolution de 1848 et proclame la Deuxième République. Il passe son enfance en Bourgogne du Sud, en particulier à Milly, qui nourrira son inspiration poétique, et étudie au collège à Lyon, puis à Belley, avant de revenir dans le Mâconnais où il mène une vie de jeune homme oisif et séducteur. Il voyage en Italie et occupe une éphémère fonction militaire auprès de Louis XVIII. En octobre 1816, en cure à Aix-les-Bains, la rencontre avec une jeune femme mariée, Julie Charles, marque un tournant décisif dans la vie du poète, mais leur histoire d'amour passionné vire à la tragédie lorsque Julie, restée à Paris, meurt en décembre 1817. Alphonse de Lamartine écrit alors les poèmes des Méditations, dont le recueil est publié en 1820 et obtient un succès fulgurant. Il épouse la même année Marie-Anne-Élisa Birck, une jeune Anglaise, et occupe des fonctions de secrétaire d'ambassade en Italie avant de démissionner en 1830. Il publie durant cette période d'autres œuvres poétiques, comme en 1823 les Nouvelles Méditations poétiques et La mort de Socrate, ou encore en juin 1830 les Harmonies poétiques et religieuses, après avoir été élu à l'Académie française en 1829. En 1830, il décide d'entrer en politique en se ralliant à la monarchie de Juillet, mais échoue à la députation. Il effectue alors un voyage en Orient où il visite la Grèce, le Liban, les lieux saints du christianisme, relatés dans Voyage en Orient et marqués par le drame de la mort de sa fille Julia. De 1833 à 1837, Lamartine est élu député du Nord. Il joue un rôle important au moment de la Révolution de 1848, proclamant la République et assure pendant 3 mois le poste de député siégeant à la commission exécutive au gouvernement provisoire. Il se retire de la vie politique après sa lourde défaite à l'élection présidentielle de 1848, alors que Louis-Napoléon Bonaparte l'emporte. Lourdement endetté, il vend le domaine de Milly en 1860 et écrit des œuvres alimentaires comme de nombreuses compilations historiques, son cours familier littérature 1856-1869 et d'autres œuvres moins décriées mais demeurant mineures telles que le Tailleur de pierre de Saint-Point en 1851. Son dernier grand poème, « La vigne et la maison », est écrit en 1857. Alphonse de Lamartine meurt en 1869 à 78 ans et repose dans le caveau familial de l'ancien cimetière communal le long du mur du parc du château de Saint-Pont qu'il a habité et transformé depuis 1820. Son lyrisme associé à une expression harmonieuse fait la qualité des poèmes de Lamartine. La partie la plus marquante de son œuvre étant constituée par les poèmes pleins de sensibilité inspirés par son amante Julie Charles, emprunt des thèmes romantiques de la nature, de la mort, de l'amour, par exemple dans le lac, l'isolement, l'automne, admiré et salué par toute la génération romantique, Victor Hugo, Nodier, Sainte-Beuve, Lamartine est parfois jugé plus sévèrement par les générations suivantes. Flaubert parle de lyrisme poitrinaire, Rimbaud écrit dans sa lettre du voyant à Paul de Meuny que Lamartine est quelquefois voyant, mais étranglé par la forme vieille. Il reste cependant largement admiré pour la puissance de son génie poétique et compte parmi les plus grands poètes français du XIXe siècle. Le 2 mai 1869, c'est l'inauguration des Folies Bergères à Paris. Le 16 mai, Émile Duhaime signe un contrat avec le théâtre de l'Eldorado à Paris. Il y connaît un grand succès avec ses chansons « Le conducteur d'omnibus »,« Le bouton de Billou » ou « L'allumeur » de Réverbère. La chanson « Les canards tyroliens » est une pièce musicale qui a été chantée dans la féerie « La chatte blanche » par Teresa, comique excentrique, et par d'autres artistes, une féerie qui date de 1852. Elle a été publiée dans le numéro 44 de Paris qui chante le 22 novembre 1903. La chanson est une fantaisie revue en un acte par Bono et Numa Bless et elle est interprétée par Madame Giralduc. La chansonnette est une adaptation de la chanson « Le devoir » de Xavier Privat. «
qu'ils ont à causer entre eux. Les passants n'y comprennent rien, mais eux, malins, ils se comprennent bien. Ils se disent comme ça, des jolis riens. Coin, 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 quand c'est des canards tyroliens. Trahiri, oulahi, trahiri, oulahi, trahiri, oulahi, titi. Trahiri, oulahi, trahiri, oulahi, coin, coin, coin. Quand les canards s'en vont par trois, ça donne à penser aux bourgeois. Y a-t-il deux canes et un canard? Ou bien deux canards par hasard? S'ils disent comme ça, des jolis riens. Coin, 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 quand c'est des canards tyroliens. Trahiri, oulahi, trahiri, oulahi, trahiri, oulahi, ti, ti, ti. Quand les canards s'en vont en tort, c'est que ça leur plaît, ça ne vous regarde pas. Ils ne s'occupent pas de votre société. Laissez leur don, leur liberté. Laissez leur dire leur joli rien. Coin, 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 coin. Coin, 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 quand c'est des canards tyroliens. Trahiri, oulahi, trahiri, oulahi, trahiri, oulahi, ti, ti, ti. Trahiri, oulahi, trahiri, oulahi, coin, coin, coin. Wallahiri, oulahi, trahiri, oulahi, coin, coin, coin.
En 1947, l'Inde a obtenu son indépendance du Royaume-Uni le 15 août 1947 après une longue lutte politique et populaire marquée par la non-violence et la désobéissance civile menée par Gandhi. Après la révolte des Sipayes en 1857, l'Inde devient une colonie directe de l'Empire britannique qui contrôle l'administration, l'économie et exploite les ressources locales, provoquant la naissance d'un mouvement nationaliste indien. En 1885, le Parti du Congrès indien est créé pour revendiquer plus de droits politiques, suivi en 1906 par la Ligue musulmane pour défendre les intérêts de la population musulmane. Voici les étapes clés de la lutte pour l'indépendance. Après la Première Guerre mondiale, les promesses britanniques de réforme et d'autonomie ne sont pas respectées, renforçant le nationalisme. En 1919, c'est le massacre d'Amritsar, une manifestation pacifique est violemment réprimée, radicalisant la lutte. Gandhi organise une résistance fondée sur la non-violence et la désobéissance civile, mobilisant la population contre la domination britannique. En 1930, c'est la marche du sel. Gandhi et ses alliés parcourent 387 km pour protester contre l'impôt sur le sel, un symbole majeur de la lutte indépendantiste. Des millions d'Indiens participent à la désobéissance civile, attirant l'attention internationale. Après la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni, affaibli, accepte de quitter l'Inde. L'Indian Independence Act de 1947 accorde l'indépendance et divise le territoire en deux États, l'Inde, majoritairement hindoue, et le Pakistan, majoritairement musulman. Cette partition entraîne de violentes tensions et des déplacements massifs de population. L'indépendance marque la fin de plus d'un siècle de domination britannique et le début d'un État souverain. La partition crée cependant des conflits durables entre l'Inde et le Pakistan qui se traduisent par plusieurs guerres et tensions régionales. L'héritage de Gandhi et de la non-violence continue d'inspirer les mouvements de libération et les luttes pour les droits civiques dans le monde.
Le 15 août 1947, l'Empire britannique des Indes devient indépendant en donnant naissance à l'Inde et au Pakistan. En dépit d'une décolonisation négociée entre la Grande-Bretagne et les élites indiennes, l'indépendance a conduit à une partition de l'Empire qui déchaîne la violence entre les communautés religieuses et provoque des transferts massifs de population. Deux siècles plus tôt, les Britanniques avaient, à travers leur compagnie des Indes orientales, progressivement dominé le continent indien en défaisant l'empire des Moghols et en évinçant les autres puissances coloniales. En 1858, la couronne anglaise avait finalement repris l'empire en administration directe, tout en maintenant les protectorats sur les états princiers. C'est dans ce contexte qu'apparaît au sein de la population hindoue majoritaire un mouvement nationaliste incarné par le Parti du Congrès. Dans les années 1920, Mahatma Gandhi, apôtre de la résistance non-violente, en devient la figure emblématique. Mais la politique de division du pouvoir colonial et les affirmations identitaires creusent le fossé entre les communautés musulmanes et hindoues. À la fin des années 30, la Ligue musulmane menée par Muhammad Jinnah, en rivalité avec le Congrès séculaire dirigé par Nehru, défend le principe d'un État séparé. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'imminence de l'indépendance déclenche les premières émeutes entre communautés. Nommé vice-roi des Indes en février 1947, Lord Mountbatten doit au plus vite organiser le transfert. Malgré l'opposition de Gandhi, il convainc Nehru d'accepter le principe d'une partition sur des bases religieuses. Mais le plan bâclé de séparation provoque des massacres et l'exode de millions de musulmans et hindous de part et d'autre. En janvier 1948, Gandhi, qui a vainement tenté d'apaiser les tensions, est assassiné, tandis que les nouveaux États s'affrontent pour le contrôle du Cachemire.
Le 11 avril 1947, c'est l'ouverture à Paris du Tabou, cave existentialiste. Boris Vian y joue de la trompette à partir de juin. C'est si bon, du compositeur Henri Betti et du parolier André Ornaise est déclaré à la SACEM, la chanson deviendra un standard de jazz à partir des années 50.
Ah, here's a little French tune we gonna swing for you, called C'est si bon. Lovers say in France, when they swing to romance, because it's all so good, yeah, c'est si bon. I'll say to you, like the French people do, mama, it's so good, ah, yes. Every boy, every sigh, every kiss, dear, leads to a newborn dawn, and it's still, it's so good. Nothing else replaces just your slightest embrace. And if you only would be my own, tell the rest of my days, Mama, I'll whisper your phrase. Why Mama says she born. Whisper your phrase. Yes, says he bye.
Thelonious Monk compose In Walked Bird, standard de jazz, également dans ces années-là. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir écoutée. Vous pouvez bien sûr retrouver tous les podcasts de l'émission sur le site de votre radio préférée, Radio Campus Paris. À bientôt.
Le tempo de l'histoire, un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.